des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Michael Ondaatje, l'auteur de The English Patient, le patient anglais, qui lui a valu le Booker Prize en 1992 et qui a été adapté au cinéma par Anthony Minghella. Il publie aux éditions de l'Olivier son nouveau roman « Ombre sur la Tamise ». Bonjour Michael Ondaatje.
Bonjour.
J'en profite pour saluer d'ailleurs Marguerite Capelle qui sera votre interprète. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Avec vous Chantal Thomas, spécialiste de Sade et de l'esprit 18e, prix Femina 2002 pour Les Adieux à la Reine, adapté au cinéma aussi par Benoît Jacquot. Elle publie son nouveau livre East Village Blues aux éditions du Seuil. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous avons placé cette émission sous le signe de la mémoire et du passé, parce que vos deux livres l'interrogent, ce passé, le chantent, le subliment même en de multiples nuances. Michael Ondaatje, je le disais, les Français vous connaissent par vos nombreux romans, dont le célébrissime Patient anglais, où il était déjà question de s'aventurer dans le passé des personnages. Est-ce que le film vous a plu, Michael Ondaatje?
I did like the film.
Oui, j'ai aimé le film.
No one ever likes the film of their book.
En fait, beaucoup de gens n'aiment pas, en général, le film qui est fait à partir de leur livre, mais moi, j'ai beaucoup aimé celui-là.
Minghella
est aussi un excellent scénariste et pas uniquement un réalisateur.
Although there are so many rules in film,
bien sûr, il y a beaucoup de règles dans la production de films qui ne s'appliquent pas aux livres et inversement. Mais il était excellent pour m'apprendre à faire ça, me montrer comment avoir davantage de chronologie dans un film, alors que dans un livre, on peut passer d'une période à une autre. Dans un film, il faut davantage de chronologie. On ne peut pas faire des allers-retours comme ça. Le livre est plus libre à cet égard.
Le fait de s'aventurer dans le passé est aussi le ressort de votre nouveau livre, donc Ombre sur la Tamise, traduit de l'anglais par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, qui paraît aux éditions de l'Olivier. Nous sommes à Londres en 1945. Juste après la fin de la guerre et ce qu'on a appelé en Angleterre le Blitz. Et nous suivons les deux enfants, les deux adolescents, en fait, d'une famille londonienne. Il y a Rachel, qui a 16 ans, et Nathaniel, 14 ans, confiés par leurs parents, qui doivent partir en Asie pour des raisons professionnelles, à deux étranges personnages, le locataire du deuxième étage, qu'on appelle Papillon de nuit, et puis, très vite, un ancien boxeur nommé le Dar. Comme un dard, deux personnages qui les éduquent d'une drôle de façon, entre petit trafic sur la Tamise et autres aventures brumeuses. Des personnages dont Nathaniel, surnommé Stitch, apprendra plus tard qu'ils étaient non pas des bandits comme il le croyait, mais des héros de la guerre, comme sa mère, qui est une sorte d'héroïne aussi, et qui n'est d'ailleurs jamais peut-être partie à Singapour, puisque dans l'un des passages au début du livre, les enfants, enfin les adolescents, découvrent que sa malle de voyage, elle avait soigneusement préparé ses affaires, est restée au sous-sol. Elle était aussi agente, la mère. C'est à une nouvelle plongée, donc enquête dans le passé, que vous nous conviez, Michael Ondaatje, dans ce livre qui ressemble à un roman d'espionnage, mais qui est aussi une recherche du temps perdu. Et ça va plaire à Chantal Thomas, parce qu'il y a une page dans le livre où le fils retrouve une photo de sa mère à 18 ans à peine au bord de la rivière où elle vient de nager. Elle plie une jambe pour enfiler une chaussure. J'ai pensé, Chantal Thomas, à votre livre précédent. Vous étiez venu d'ailleurs dans cette émission, Souvenir de la marée basse. Je le lis. J'ai en ma possession une photo de ma mère sur laquelle ses traits sont à peine visibles. Je la reconnais à son maintien, à la souplesse de son geste. Même si le cliché date d'avant ma naissance, elle a 17 ou 18 ans. Ce sont ses parents qui l'ont photographiée au bord de leur rivière du Suffolk. Après avoir nagé, elle vient de remettre sa robe et debout sur une jambe, elle plie l'autre pour enfiler sa chaussure. La tête inclinée, de sorte que ses cheveux blonds voilent son visage. J'ai trouvé la photo des années plus tard dans la chambre d'amis parmi les quelques vestiges qu'elle avait décidé de ne pas jeter. Je l'ai encore avec moi, une femme presque anonyme, à l'équilibre précaire, cramponnée à sa propre sécurité, incognito déjà. C'est drôle cette coïncidence, non ?
Oui, ça m'a beaucoup touchée. Mais beaucoup de choses m'ont touchée. Dans ce rapport à la mère lointaine et adorée, mais qui vous donnera jamais un signe définitif.
It's a thing, you know, all writers are are archaeological.
Tous les écrivains sont des sortes d'archéologues, je pense.
I mean, even if the plot is moving forward,
même si l'intrigue progresse, on fait aussi des retours en arrière pour essayer de retrouver une source, pour essayer de comprendre un mystère.
And I think all my books,
et je pense que tous mes livres, même les premiers qui parlaient de jazz, avait cet élément, essayer de trouver quelque chose. L'écrivain est une sorte de détective.
L'écrivain est un détective. En tout cas, cette mère, elle est nageuse, et pas seulement. C'est une mère espionne que peu à peu va découvrir ce fils au cours de cette exploration du passé, cette exploration de la guerre et cette exploration de la mer. Le titre français, un peu d'ailleurs c'est drôle parce que le patient anglais avait été traduit au départ, Michael Ondaatje, par l'homme flambé en français. Et puis, et puis le film, finalement, le succès de The English Patient a fait rebaptiser votre livre en tout cas en français. Alors, Ombre sur la Tamise, c'est le titre français, mais en anglais. C'est un très joli mot, peut-être intraduisible ou en tout cas pas dans sa complétude. C'est War Lights, les lumières de la guerre, les lumières plus que les ombres. Comment expliquer que vous ayez choisi un terme aussi lumineux, War Lights, pour raconter une enquête dans les brumes du passé et aussi nimbée de mystère?
Well, I think what was interesting to me was that
je pense que ce qui m'intéressait, c'était cette façon de passer de la guerre à la paix. Il y a là une limite extrêmement mystérieuse. Et les règles qui s'appliquent changent à ce moment-là.
Un
parent réintègre sa famille, un mari, un père, les enfants doivent se réadapter. D'un seul coup, il n'y a plus la liberté de faire ce qu'on veut dans la ville. Au début de ce livre, les enfants ont l'air d'être abandonnés par leurs parents, mais en fait, en réalité, eux vont avoir cette grande liberté en rencontrant ces personnages un peu louches comme le dard et le papillon de nuit. Et en fait, ils vont apprendre beaucoup plus que tout ce qu'ils avaient pu apprendre auparavant.
Ou bien en termes de lumière, c'est vrai qu'on passe de War Lights, les lumières de la guerre, à Ombre sur la Tamise. Il y a vraiment un effet chromatique intéressant.
Je suppose que mon éditeur a pensé que ce serait un meilleur titre.
Ouais. Mais vous, le fait d'avoir choisi War Lights, c'est-à-dire un terme qui convoque la lumière alors qu'on est dans le sombre du passé, dans le brouillard.
Pour moi, les lumières de la guerre, c'est presque une lumière qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Europe, qui traverse la mer, là où la guerre a eu lieu, et c'est une lumière qui continue, en fait, à inonder les enfants après la guerre, à éclairer les enfants. Il y a aussi des petits indices là-dedans. La scène qui se passe sur la rivière où la barge doit avancer dans l'obscurité, sur le fleuve, sur la Tamise, il y a quelques petites lumières qui leur permettent de se guider.
Alors Chantal Thomas, vous publiez, vous, East Village Blues, au seuil. Et c'est après le portrait de la mère en nageuse, dont nous parlions à l'instant, qui était souvenir de la marée basse. On retrouve donc, c'est drôle, ce motif de la mère nageuse dans le livre de Michael Ondaatje. Et votre nouveau livre est aussi une forme de nage dans le passé, ou une plongée dans le passé, lestée par le bel usage que vous faites de votre mémoire, entre souvenirs de parties, il y a beaucoup de parties.
C'était l'époque, hein.
C'est génial. Et des fragments de textes d'autres écrivains que vous nous donnez à lire dans une sorte de montage littéraire. Et ça va certainement plaire à Michael Ondaatje, qui a publié d'ailleurs un livre de conversation avec l'un des grands monteurs de Hollywood, Walter Murch, même si c'était du montage cinématographique. C'est une sorte de montage littéraire que vous faites, Chantal Thomas. L'histoire se passe aujourd'hui et dans le passé. Vous vous trouvez à New York et vous vous rappelez votre premier voyage dans cette ville qui vous a subjugué alors que vous veniez de soutenir votre thèse sur le Marquis de Sade avec Roland Barthes. Je dis vous ou je dis la narratrice?
Je, de toute façon, est toujours un jeu romanesque, donc vous pouvez dire vous.
Bon, alors je dis vous. Alors vous, Chantal Thomas, vous remémorez des moments très électriques dans l'East Village, des fêtes avec Andy Warhol au regard mort. D'ailleurs, vous m'avez rappelé, c'est vrai que sur sa tombe, il a voulu qu'on mette un mot qui est très important pour les écrivains.
Fiction.
Fiction, voilà. Fiction. La fiction. Quand vous avez découvert ça... de la part de ce personnage que vous décrivez comme un mort vivant.
Oui, c'est-à-dire il est physiquement mort après l'agression de Valeria Solanas. Et puis, il a survécu. Mais cette traversée de la mort, qui fait aussi qu'il avait ce corps... Ce qui est bouleversant aussi, c'est le contraste entre ce corps couturé de cicatrices, presque intouchable, puisque tout contact lui était horrible, et la façade lisse de lui comme une sorte d'emblème. Mm. C'est-à-dire, il s'est construit comme un signe. Mm. Il y avait une grande exposition à New York sur Andy Warhol, et je pensais les deux choses, ce corps de souffrance et cet art absolument qui traverse le temps, impavide, enfin, de dire sans écorchure.
Et signer sa mort par le mot fiction, par le mot fiction, oui. Qu'est-ce que ça dit, puisqu'on évoquait Barthes? Voilà.
Mais ça dit d'abord un rapport de génie au signe. Oui. C'est quand même, les gens de cette génération ont su à la fois être dans un feu ardent, existentiel, et comprendre la circulation du signe. Ginsberg avait ça aussi. Oui. Il était un poète flamboyant, il était aussi quelqu'un qui a su faire exister matériellement, à travers l'édition, les œuvres de la Beat Generation. Mm. C'est très intéressant. Et Barthes avait ça aussi. Ouais.
Le mot de fiction, c'est un mot qui est important dans votre travail, Chantal Thomas.
Complètement. Mm. Parce qu'à la fois, je reste au plus près des événements. Je travaille ces textes comme je travaille les adieux à la reine ou l'échange des princesses. Je reste au plus près des traces sûres, érudites, factuelles. Et je suis une sorte de courant, de rivière, romanesque, un flux comme ça, fantasmatique. Mmh. Et je joue avec les deux.
Alors je parlais d'Andy Warhol, que vous croisez dans le bar lesbien, le Bonnies and Clydes.
Qui était génial.
Ah bah, on a envie d'y aller. Alors le Katmandou dont vous parlez à Paris, on a très très envie aussi d'y aller.
Oui, mais après, voilà. Le Bonnies and Clydes, après, voilà. je peux vous dire, pour le rythme.
Des lieux comme le Chelsea Hotel, alors évidemment plus connu, ou l'appartement où vous vivez chez votre amie Cynthia, un Railroad Apartment, donc ces appartements en forme de wagon, hein, finalement. Très étroit. Et puis les grands textes de la Beat Generation que vous nous donnez à relire, comme si le passé ne se réactivait que mieux lorsqu'on convoque les textes des autres, ce qu'on a lu aussi à cette époque-là, ce qu'on a entendu, parce que Ginsberg, vous l'avez entendu, hein, lire ces textes. Et donc voilà, Ginsberg, il est là, Kerouac. J'ajoute que c'est un livre qui est entrecoupé de photographies d'Allen Weiss, de photos de murs, en fait, de graffiti, qui rappellent aussi ce temps révolu. Le titre, Chantal Thomas, East Village Blues, comme je le demandais à Michael Ondaatje, m'a étonné parce qu'il semble faire référence à ce genre musical afro-américain où une certaine tristesse est chantée, puisque le mot de blues vient de l'expression anglaise Blue Devils, les diables bleus qui signifiaient les idées noires. Est-ce qu'il est à prendre ce titre, Chantal Thomas, avec les pincettes du regret?
Non, alors j'ai aimé ce titre d'abord parce que Kerouac a écrit des blues magnifiques et donc c'était un peu une Mexican blues. C'est une évocation au génie à la fois d'écrivain et musical de Kerouac et de tous ses poètes, puisque la poésie et la musique sont indissociables. C'est aussi parce que quand je reviens à New York et je marche dans ces rues avec Allen Weiss et on cherche les lieux à photographier et on s'arrête à ce qui nous déchire, il y a l'idée de quelque chose de perdu, de quelque chose qu'on est en train de sauver. Donc le blues, c'est la vision frontale que quelque chose est perdu. Mais de cette perte jaillit le chant. Donc, et la joie et le corps.
Je ne vais pas dire le chant du cygne, S-I-G-N-E, pour reparler de Barthes. Michael Ondaatje, ce que disait Chantal Thomas doit vous intéresser, cette idée d'un monde perdu, puisque c'est un peu un monde perdu avec lequel on fait connaissance dans Ombre sur la Tamise. Je voulais vous demander d'ailleurs à tous les deux, en préparant cette émission, je suis tombé sur cette jolie phrase d'Oscar Wilde, le seul charme du passé, c'est qu'il est le passé. Est-ce que pour vous, un écrivain, de la même manière que certains animaux vivent dans un biotope aquatique ou dans des grandes forêts ou des univers désertiques, est-ce qu'un écrivain serait pour vous cet être vivant qui, lui, ne s'épanouit bien que dans le passé, dans la mesure où le présent est trouble et que l'avenir nous est caché?
Well, there's an obsession with the past.
Eh bien, il y a une obsession du passé. Je ne sais pas si on veut vivre dans le passé, mais... Je ne suis pas tout à fait sûre de la manière de répondre, mais je sais que la plupart de mes livres ont effectivement effectué une sorte de retour en arrière, cette archéologie, le musicien de jazz en 1912 dont je parlais, ou ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale à la fin, ou encore la naissance de Toronto dans les années 20. J'aime bien effectivement regarder vers le passé parce que je pense que pour moi, l'acte d'écriture est une forme de curiosité. Je n'ai pas envie d'écrire sur quelque chose que je connais déjà. Le plaisir pour moi de faire des recherches, de découvrir où les Macédoniens ont pu vivre à Toronto et comment ils mettaient certaines fleurs sur leur pelouse pour être identifiés par les autres Macédoniens. Ce sont ce genre de détails en fait qui me parlent de comment on vit dans des périodes qui sont troubles politiquement. Et donc j'aime bien faire ce genre de recherches pour mes livres, j'en fais beaucoup. Mais ce n'est pas forcément au début, en fait, c'est au fur et à mesure de l'écriture que je fais ces recherches. Je découvre des choses à mi-chemin de l'écriture du livre et qui vont altérer en fait l'impact de tel ou tel fait historique et changer parfois la direction du livre ou le rendre plus dramatique.
Donc la partie enquête est importante pour vous, Marika Landajay. D'ailleurs, je corrige, c'est World Light au singulier en anglais, donc c'est encore presque plus fort, la lumière de la guerre. Vous souscrivez à ce terme d'enquête, Chantal Thomas, finalement, Marika Landajay parlait de cette documentation, mais il y a peut-être une enquête même au cœur de la fiction même.
C'est les deux. Moi, j'adore aussi faire des recherches. Parce que j'ai été choquée quand je me promène dans His Village qu'il n'y ait aucune plaque disant où ces écrivains ont vécu. Et donc, je me promène en dédicaçant des plaques invisibles et mon livre est un peu une sorte de dédicace à eux, vous voyez. Donc, il y a des recherches derrière, mais ces recherches, en effet, moi, je pense exactement pareil. C'est-à-dire que les recherches vous font aller dans une autre direction. Et je pense aussi que j'ai pas le sentiment d'écrire dans le passé, voyez. J'écris au présent, mais je veux que le passé soit une manière de rendre notre présent plus intense, d'abord plus profond, plus intelligent, et du coup, plus large.
Y compris pour l'échange des princesses.
Exactement. Ouais, c'est voilà. La même.
Un sujet historique ne veut pas dire qu'on soit dans le passé.
Ouais. C'est le même désir. Je pense qu'on voit mieux, par exemple, on se promène dans New York en sachant qu'il y a eu un passé, qu'il y a eu des luttes, qu'il y a eu des fractures dans les valeurs, si on sait ce que je raconte, qu'auparavant, je veux dire.
On va poursuivre avec vous, Chantal Thomas et Michael Ondaatje, dans l'exploration de ce passé et de vos deux livres, Ombre sur la Tamise et East Village Blues. On va commencer avec vous, Michael Ondaatje. On écoute votre choix musical, London is the place for me, par Lord Kitchener.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because the English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me.
Lord Kitchener, London is the place for me. Londres est mon endroit, et l'endroit qu'il me faut. C'est le choix de Michael Ondaatje, qui publie Ombre sur la Tamise aux éditions de l'Olivier, traduit de l'anglais par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Pourquoi ce choix musical ?
I think it's a great song because this
song. Je trouve que c'est une chanson fantastique.
The day he landed in London.
Il l'a chanté le jour où il est arrivé à Londres par bateau. Et il en a chanté deux vers. C'était en 1948, deux phrases. Et c'est une célébration presque ridicule de Londres, qui était probablement une ville extrêmement raciste à l'époque.
They found it all the these guys from West Indies.
Et il y avait tous ces types qui arrivaient des Antilles et des Caraïbes et qui avaient la vie vraiment difficile, comme Sam Salvan qui a écrit d'ailleurs sur cette cette période, mais il y avait en même temps toute une tradition musicale, Lord Kitchener, Lord Beginner, Mighty Sparrow, tout un tas de musiciens jamaïcains qui célébraient en fait cette occasion de rencontrer la reine, etc. Et c'était assez délicieux à écouter.
Et je note qu'ils utilisaient des noms comme Lord Kitchener, Lord Beginner, des pseudonymes comme les personnages de votre roman Ombre sur la Tamise, qui s'appelle le Dar, qui s'appelle Papillon de Nuit, qui ont des tas de surnoms aussi. C'est toujours le règne de l'incognito, Michael Ondaatje.
Right. I mean, incognito is good.
Tout à fait, incognito, c'est bien, la mère était incognito.
Donc
je pense que les enfants le peuvent l'être aussi.
Ce choix musical, London is a place for me, et le fait qu'on soit à Londres hein, aussi, évidemment, avec Ombre sur la Tamise, vous l'aurez deviné, la Tamise, donc Londres. Est-ce que c'est une manière de nous dire, Michael Ondaatje, que ce livre est d'abord pour vous lié à la réactivation d'une topographie? Le motif des cartes topographiques court tout au long du roman et il s'ouvre d'ailleurs par cette phrase dont on ne sait pas qui est l'auteur. La plupart des grandes batailles se livrent dans les plis des cartes topographiques. C'est la phrase qui est à l'orée de votre livre, au seuil de votre livre. Elle est de qui cette phrase?
En fait, le nom m'échappe, mais c'est un réalisateur français très connu. Bresson.
Ah oui, et donc il ne méritait pas d'avoir son nom sous sa citation.
En fait, j'ai caché son nom à la fin du livre.
Alors, à la fin du livre, je dois dire aussi qu'à la fin du livre, c'est vrai, d'ailleurs, ça sera une de mes questions, il y a une quinzaine de pages à peu près de références, de bibliographies, finalement presque de reconnaissance de dette. Vous prévenez, bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, ce livre s'inspire de certains faits et lieux historiques. Et vous remerciez d'ailleurs les écrivains à qui vous avez emprunté certaines citations. Vous les remerciez à la fin, d'où finalement Cartier-Bresson, voilà, mes passés, a été un peu trop incognito pour moi. Est-ce qu'un livre, Michael Ondaatje, c'est une reconnaissance de dette hein? Vous remerciez Claudio Magris, Conan Doyle, un tas d'écrivains dont vous servez.
Je pense toujours
qu'un livre est un acte commun, partagé. En fait, quand j'ai grandi au Sri Lanka, j'ai entendu beaucoup je peux citer beaucoup en fait d'auteurs sri lankais, d'artistes sri lankais, parce que mes oncles, mes tantes, etc. ont pu ajouter des choses à ma voix qui n'aurait pas été la même si elle avait été seule. Dans les années 50, donc un peu plus tard que la période où se passer ce livre, c'est là où je suis arrivée à Londres, et donc il fallait que je retrouve à quoi ressemblait la ville juste avant mon arrivée, en fait. Donc il y a ces petits aspects, comment était la rivière, ces trafics, c'était quelque chose d'important pour moi. Et j'aime effectivement reconnaître le rôle de ceux qui ont pu m'aider.
Par exemple, je donne un petit exemple de ça, page 209, en fait, il y a un personnage, en fait, qui s'exprime ainsi. Une autre fois, en détruisant avec précaution un nid de guêpes, il avait déclaré « Il faut savoir quand se jeter dans la mêlée, mais aussi quand s'en retirer. Les guerres ne finissent jamais. Elles ne restent jamais confinées dans le passé. Séville pour blesser, Cordoue pour mourir. » Telle est la leçon capitale. Et en fait, à la fin, donc quand on va dans ces pages de la fin, il y a une petite note de vous avec les sources. 209, Federico Garcia Lorca, Séville, avec les références. En fait, vous vous amusez à mettre des vers, à mettre des dialogues de romans dans la bouche de vos personnages.
Yes, and sometimes I kind of carry on the fiction.
Oui, et parfois j'entraîne la fiction aussi dans cette démarche de reconnaissance de dette. Dans un précédent livre, j'avais eu un chanteur célèbre, Tony Appen, qui signait un livre d'or. Donc on peut se fier à rien en fait. Tout est de la fiction jusqu'à la toute dernière page.
Alors vous publiez Michael Ondaatje Ombre sur la Tamise, hein, je le disais, on est en 1945, juste après la fin de la guerre. Et nous suivons deux jeunes adultes, disons des adolescents, 14 et 16 ans, un frère et une sœur, Rachel et Nathaniel, qui sont confiés par leurs parents, qui doivent partir à Singapour pour leurs activités professionnelles. Au locataire du deuxième étage, qu'on appelle Papillon de Nuit. Bientôt, un deuxième individu se joint à lui. Lui, on l'appelle le Dar de Pimlico, un ancien boxeur, qui vont prendre soin de ces deux adolescents en l'absence de leurs parents. Sauf que, bientôt, on découvre que peut-être la maman n'est jamais partie et que ces personnages au nom, au patronyme aussi insolite, sont en fait non pas des gangsters, des malfrats parce qu'ils se livrent à tout un tas de petits trafics, mais des héros de la guerre. Et vous allez nous emmener, nous les lecteurs, les lectrices, dans les zones troubles de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une enquête sur la guerre, mais c'est une enquête aussi sur la mer et sur ce personnage admirable de mer, cette mer nageuse qui nous faisait penser à celle de Chantal Thomas dans Souvenir de la marée basse. Une mère hein, qui avait distillé cette leçon de vie à son fils avec lequel elle joue aux échecs. La première chose que doit apprendre un bon chef militaire, c'est l'art du repli. Ça ressemble à un roman d'espionnage, ça ressemble à une enquête aussi, qui serait pas tant une enquête d'espionnage. Vous citez Conan Doyle, alors lui, il est présent page 111, Michael Ondaatje, je le cite, Conan Doyle. « J'ai assurément été très surpris de vous trouver ici, Holmes. Pas plus que moi de vous y voir. Je suis venu y chercher un ami. Et moi, un ennemi. » Est-ce que vous utilisez le motif de l'enquête? Car le passé sera toujours pour vous une chambre à secrets que l'écrivain, au fond, n'a de cesse d'explorer sans arrêt, livre après livre.
Oui, comme
je l'ai dit, je pense que la plupart de mes livres parlent du passé, mais du point de vue d'une voix contemporaine. Quand on écrit, par exemple, sur Sade ou le 18e, ce qui est intéressant, c'est de parler d'une histoire qui n'est pas seulement un passé lointain. Un roman historique pourrait s'être passé il y a 2 semaines. Il pourrait aussi parler de ce qui vient juste de se produire. En Palestine, par exemple.
Donc,
il y a toute une gamme en fait, de possibilités en matière d'écriture. Et l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur cette place très, très particulière du narrateur. Nathaniel est un garçon qui grandit et qui, petit à petit, comprend mieux ce qui se passe. Ses faiblesses sont assez évidentes, ses points faibles dans la manière dont il raconte l'histoire. Mais pour revenir sur l'idée de la reconnaissance de dette à la fin du livre, j'ai un ami écrivain qui dit qu'il faudrait toujours une page d'anti-remerciement, anti-reconnaissance. Les gens qui vous ont empêché, qui vous ont mis des bâtons dans les roues quand vous vouliez écrire. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit votre dentiste ou peu importe qui.
On parlait de lumière avec vous tout à l'heure, hein, d'ombre et de lumière. Je voudrais lire un petit passage de ce livre où d'ailleurs vous semblez vous mettre en tant qu'auteur dans la peau de votre narrateur. Le narrateur, c'est Nathaniel qui, des années après, raconte justement cette époque d'apprentissage de la vie avec le dard et Papillon de nuit. Et il écrit ça, Nathaniel. En écrivant ces lignes, des années après les faits, j'ai parfois l'impression de le faire à la lueur d'une bougie, comme si j'étais incapable de voir ce qui se trame dans le noir au-delà des traits de mon crayon. Ces moments me semblent privés de contexte. Le jeune Picasso, me dit-on, ne peignait qu'à la bougie afin d'accueillir le mouvement transformateur des ombres. Enfant, je m'asseyais à mon pupitre pour dessiner des cartes détaillées qui irradiaient jusqu'aux confins du monde. On a l'impression que vos personnages, finalement, passent leur temps à essayer d'éclaircir ce qui est dans l'obscurité. Vous nous parlez à la fois de leur adolescence, mais aussi de la guerre. Vous nous révélez des faits secrets sur la guerre. Secrets peut-être cachés par les services secrets. Une histoire presque falsifiée, gommée. Puisque vous parlez de Picasso qui adorait ce mouvement transformateur des ombres, je voudrais savoir ce qui intéresse non pas Picasso, mais Michael Ondaatje. Est-ce que c'est ce mouvement transformateur des ombres ou est-ce que c'est finalement opérer la clarté dans un monde de plus en plus obscur?
Je crois qu'il y a un autre niveau dans cette question. On essaie d'écrire sur le passé, qui est assez incertain, mais on essaie aussi d'écrire, de raconter le passé par la voix de quelqu'un qui lui-même n'est pas sûr, en essayant de trouver des indices. Moi, en tant qu'écrivain, quand je commence à écrire le livre, je ne sais pas ce qui va se passer. Le livre lui-même est un mystère total pour moi. C'est aussi un aspect. Tout ce que j'ai au début, en fait, c'est un lieu, une époque, Londres, 1945, la fin de la guerre. Mais je n'ai aucune autre information à part ça, à part le fait qu'il y a un jeune garçon, une jeune fille qui sont abandonnés par leurs parents. Et donc, ce que je découvre en écrivant le livre, c'est toute cette histoire beaucoup plus vaste, et c'est là où tous les autres mystères, les secrets, cette histoire de Picasso qui peint à la lumière de la bougie. C'est tout à fait ça, on essaie d'inventer, on essaie de créer une histoire.
Mais on parlait de topographie hein, tout à l'heure avec cette phrase de Cartier-Bresson. La plupart des grandes batailles se livrent dans les plis des cartes topographiques. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, choisir ce pli, disons, topographique et historique, archéologique, du Londres post-guerre ?
Je pense que l'un des grands mythes centraux de Londres, c'est la Tamise. Si on revient au XVIe, au XVIIe siècle, il y a un certain nombre de professions sur la rivière. Il y avait peut-être 700 métiers qui s'exerçaient sur la rivière, sur le fleuve. Il y avait tous ces gens qui ramassaient le charbon, ramenés par les bateaux, etc. Il y avait toutes sortes de métiers. Et c'était très intéressant dans cette ville qui était pleine d'activité. C'était tout ce qui se passait autour de la Tamise plutôt que la ville elle-même. Et bien sûr, Dickens a écrit de formidables scènes autour du fleuve.
Et quand
j'étais là, moi, je traversais la Tamise. Quand je suis arrivée, jeune garçon, c'était mon paysage. Je traversais la Tamise tous les jours. Et j'ai parcouru certains de ces canaux. J'ai aussi cherché dans les archives pour essayer de comprendre ce que ça faisait d'être ainsi bombardé sur les rives de la Tamise. Donc, il y avait énormément d'informations. Bien sûr, Chantal aussi doit chercher beaucoup d'informations pour ses livres. Donc c'est ça qui m'a vraiment attiré dans cet endroit-là, qui a été au cœur du livre.
Chantal Thomas, c'est aussi comme ça que vous trouvez vos terrains de jeu, voilà, mais, finalement, des souvenirs
personnels. Mes terrains de jeu, en fait, ils s'enchaînent les uns les autres. C'est-à-dire, mon premier livre, c'est La vie réelle des petites filles, et je joue sur une plage que je ne cesse de déplacer, où en fait c'est une plage de l'Atlantique, du bassin d'Arcachon, c'est comme un banc de sable. C'est-à-dire, il apparaît ou il disparaît, mais c'est lui qui me mène et c'est son tracé que je suis.
Mmh. Un imaginaire qui disparaît, qui réapparaît. Un imaginaire banc de sable.
C'est un imaginaire banc de sable et profondément liquide. Ouais. C'est pour ça que ces dérives sur la Tamise m'ont absolument charmé, parce que c'est lié aussi au désir de soi qu'on ignore. Mmh. Et c'est une des choses magnifiques dans Ombre sur la Tamise. L'ignorance de ses enfants. Par exemple, je trouve extraordinaire que cet adolescent ne sache pas qui est la fille qu'il aime. Mmh.
Et pour moi, ça a été,
oui. Et pour moi, ça a été une révélation. Et dans mon livre, à mon avis, il y a ça. Je découvre ces boîtes homosexuelles. Je me laisse entraîner par Cynthia, cette jeune femme qui
chez qui vous vivez, ouais.
Voilà. Mmh. Mais au fond, on ne sait pas qui on est et c'est dans cette marge d'inconnu qu'on s'aime, qu'on fait l'amour.
Mmh. Michael Ondaatje. Il y a cette photo dont on parlait tout à l'heure avec Chantal Thomas et qui agit comme un indice dans ce livre. C'est la photo que Nathaniel garde avec lui de sa mère quand elle avait 18 ans et qu'elle sortait en fait d'une rivière où elle venait de se baigner. C'est une photo qui date donc d'une période de la vie de sa mère avant la naissance du fils. Et c'est une photo qui convoque l'idée, je trouve, non seulement d'identité, qui est cette mère, mais l'idée de visibilité. On a l'impression sans arrêt dans ce livre que les personnages sont là sans être là. Cette mère est partie, elle a préparé sa malle. Or, on découvre que la malle est là, donc que la mère n'est pas partie. On découvre aussi, beaucoup plus perturbant, et c'est l'une des activités auxquelles se livre le personnage quand il est adulte, je vous cite Michael Ondaatje. Dans les années 1950, une génération plus tard, notre travail consistait donc à exhumer, puisqu'il travaille pour le Foreign Office, votre personnage, dans des rapports égarés et des documents officieux, les preuves d'action que l'histoire risquait de juger importunes. Dans le monde de l'après-guerre, 12 ans après les faits, nous avions le sentiment, nous qui nous penchions sur les dossiers qu'on nous apportait jour après jour, qu'il n'était plus possible de savoir qui adoptait une position morale. Et bon nombre de ceux qui travaillaient dans ce labyrinthe gouvernemental remirent leur démission moins d'un an après leur entrée en fonction. C'est pas seulement un problème d'identité, c'est presque un problème de visibilité. C'est ça qui vous intéressait en écrivant ce livre, dans votre propre enquête ?
Je pense que l'un des problèmes, quand on arrive à la fin d'une guerre, les gouvernements ont tendance à effacer de l'information. De même qu'ils ont mis d'autres en sécurité. Ça s'est passé en Angleterre, en Allemagne, avec les résistants, ça s'est passé aussi en Italie. Donc il y avait une sorte de course pour trouver les éléments dans les archives. Mais le travail, en fait, du narrateur est d'effacer effectivement tout ce qui est politiquement incorrect. Donc il y a ça qui s'est produit, mais sa façon d'inventer le monde est une sorte de fantasme, en quelque sorte. Il est préoccupé par sa quête de la mère, alors qu'en fait, la personne importante, c'est Agnès, la fille. Et donc, on n'est jamais tout à fait sûr. Je ne savais jamais, en fait, où j'allais terminer avec ce livre. Au Japon, ils aiment cette idée de ne pas savoir à quoi va ressembler la structure finale du livre. Et je pense que c'est vraiment à la fin du livre qu'on découvre sur quoi on aboutit, à quelle scène on arrive.
Oui, d'ailleurs, la notion japonaise de monde flottant, ça rappelle votre banc de sable, Chantal
Absolument.
Thomas.
Absolument, mais le Japon est de plus en plus proche dans mes textes.
Est-ce que vous avez choisi justement ce motif de l'espionnage, de l'espion, par rapport à cette réflexion sur visibilité, invisibilité ? On est là sans être là, on n'est pas qui on croyait être d'ailleurs, et on n'est pas qui on prétend être.
Je pense que très tôt, j'aimais bien les personnages à la Le Carré. Mais il y avait tellement de livres en fait sur des histoires d'espions que j'ai arrêté d'en lire. Et j'ai voulu essayer de trouver une autre façon de raconter cette histoire-là. Du point de vue de la jeunesse plutôt que de celui de l'espion professionnel.
Mais est-ce que c'est juste un motif, le fait de travailler sur l'espionnage ? Vous ne faites pas du John Le Carré ? Il y a une sorte de prise de distance à chaque fois, d'amusement avec le genre de l'espionnage. Est-ce que plus profondément, ce qui vous intéresse, c'est pas une réflexion aussi sur l'identité, sur la visibilité ?
Ce qui m'intéressait, c'était le fait que la mère était quelqu'un qui avait une profession qui l'obligeait à garder le silence. Il y a tellement de professions, pas uniquement les espions officiels, mais toutes ces personnes qui travaillent, par exemple, dans des usines qui fabriquent des poisons, ce genre de choses. Il y a toute une gamme, en fait, de métiers liés à l'effort de guerre. Et j'étais en train de découvrir, en fait, tout ça. Et le fait que, voilà, que toutes les pancartes, les noms avaient été dissimulés. C'était ça qui m'intéressait, pas uniquement l'espion professionnel.
Il y a un personnage de femme, une autre femme, géographe, ethnographe, qui est la maîtresse du dard, qui dispense aux enfants des leçons qui peuvent être utiles, marcher dans une forêt la nuit sans avoir peur, et qui leur dit « Votre histoire n'est qu'une histoire parmi d'autres, pas nécessairement la plus importante, le moi n'est pas ce qui compte le plus. » Est-ce que c'est ça, la leçon de votre livre, où on croise des espions, des criminels, des malfrats, des gens qui sans arrêt franchissent des limites, qui échappent au cadre, en fait, qui sortent du cadre familial, moral, qui vivent la nuit quand la plupart des femmes et des hommes vivent le jour, qui sont des êtres du brouillard, contenu d'ailleurs dans le titre français, des gens qui ne sont pas qui ils sont. Qu'est-ce qui compte si ce n'est pas le moi ? Le moi n'est pas ce qui compte le plus. Alors qu'est-ce qui compte le plus, Michael Ondaatje ?
Je pense
que c'est une bonne leçon pour un enfant, en fait, de ne pas croire que tout ce qu'ils font relève de leur responsabilité. Le fait que, voilà, qu'il y a d'autres gens autour de vous dans le monde, d'autres forces, même si c'est un blaireau endormi ou un oiseau au-dessus de vous dans l'arbre, c'est la nature qu'Olive leur fait découvrir. Elle écrit sur la nature. Donc elle est extrêmement consciente, en fait, de tout ce qu'il y a autour. Et ce n'est pas le type d'éducation classique qu'un enfant a en général. Normalement, on est censé passer ses examens, devenir avocat ou être si. Je préfère ce type d'adulte de sensibilité comme celle qu'a Olive. Elle est plus proche d'une mère, en fait, d'un personnage de mère que n'importe qui d'autre dans le livre, et elle les accompagne pendant peut-être 2-3 semaines seulement, ses enfants.
Et
quand ce personnage est entré dans le livre, je me suis dit, bon, voilà, je vais voir quelque chose avec la petite amie du dard, et puis je commence le chapitre, et d'un seul coup, j'avais 10 pages, et elle est devenue de plus en plus intéressante. C'est un personnage, en fait, qui dépasse très largement ce que j'attendais d'elle, et c'est ça qui est intéressant.
Mais sur cette notion que le moi n'est pas ce qui compte le plus, là, on n'est pas juste dans une réflexion sur la nature et ce qui nous entoure. C'est quand même quelque chose de percutant.
Non, je pense que,
je pense qu'en fait, cette idée que le moi n'est pas la chose la plus importante C'est plutôt un point de vue assez généreux, assez ouvert en fait sur la façon dont on peut exister au monde.
En même temps, c'est quand même ce qui motive l'enquête de votre personnage, c'est quand même une enquête pour savoir qui il est, qui est son moi, de qui il procède, qui était sa mère, qui était même sa petite amie. J'avais l'impression au contraire que ce qui comptait le plus c'était cette recherche du moi et que c'était tout ce qui fondait votre livre.
Je ne suis pas certain.
Je crois qu'à la fin, il a pris conscience
de toutes ces personnes autour de lui, d'Agnès, du Dar, de la mère, de Olive Lawrence, de sa sœur.
He's not fully focused on himself
il n'est plus centré pleinement sur lui en tant que personnage principal, s'il l'est d'ailleurs. C'est proche du fait d'être écrivain, je pense, parce que quand on écrit, on a six personnages importants et on est avec eux. Et on les accompagne, on les guide en quelque sorte avec une lampe torche, ou alors on guide le lecteur, mais ce n'est pas une lampe torche qu'on braque sur nous-mêmes. Et je pense que dans le cas de ce personnage, c'est le cas aussi. Il y a des romans où le personnage central est vraiment le personnage principal. Mais je ne crois pas que ce soit le cas dans ce livre. Il a une posture plus modeste, je pense.
Je dis ça parce qu'évidemment, je pense au livre de Chantal Thomas qui semble, lui, d'ailleurs, comme le précédent, procéder finalement d'une tentative pour définir ce qu'est le moi, votre moi.
C'est une tentative à la fois autobiographique et romanesque. Et plutôt que le moi, ce que je cherche à définir, c'est mon chemin de liberté. Donc c'est
d'être livré à vous-même.
C'est chercher ma route, vous voyez. Et cette route, elle passe par beaucoup de lieux et par beaucoup de moments. Et ce que je cherche, je pense, c'est les personnages décisifs, que ce soit d'ailleurs des grands personnages historiques ou les personnages plus proches, comme une mère, ou là, l'événement de New York, de la découverte d'un monde différent et surtout d'un rapport à l'art et au risque différent. Au risque. Il y a cette chose, et c'est ce qui est proche, je pense, avec l'écriture de Michael Ondaatje pour ce livre, c'est que c'est des espaces où on avance sans très bien savoir où on est et sur un fond de danger, parce que New York, dans les années 70, était dangereux.
Oui, on l'a oublié d'ailleurs, vous parlez, il y a ce motif de la pauvreté aussi qui était là, qui a disparu, mais qui revient. Donc en fait, il y a cette idée de retrouver qui on est, je pense à souvenir de la marée basse. Est-ce qu'on procède de sa mère, même de l'inquiétude souveraine, d'ailleurs, de cette belle figure de nageuse. Et puis après, où est-ce qu'on est fondé par les rencontres adolescentes, les lectures aussi qu'on fait dans une ville étrangère, dans une ville nouvelle électrique.
Je pense plutôt que qui on est, c'est trouver la forme la plus juste d'un rapport vibrant au monde. Et c'est ça qui me passionne. C'est pas l'idée d'une définition de moi, de mon être, mais c'est que trouver une voie par l'écriture, par l'amitié, par le voyage, qui fasse que tous les instants de ma vie sonnent juste.
Pourquoi ? Pour leur donner une unité ? En fait, votre travail d'écrivain, ça serait ça ?
Non, pour faire vibrer quelque chose.
Mais chez qui ? Chez vous ? Chez votre lectrice ?
Ah bah
chez votre lecteur ?
Les deux. Ouais. Chez moi. Ouais. D'abord, ça part de ce, que j'ai, ce que je sens, bien sûr. Mais j'ai envie que ce soit comme des ondes sur l'eau et que ça se propage. Ah oui.
C'est-à-dire que vous écrivez, alors sur les lectrices et les lecteurs, on le comprend très bien, vous écrivez vous-même pour vous produire une vibration aussi
J'écris en écho et en cherchant la trace la plus vive de ces événements. Et donc je dis vive au sens où c'est lié au passé, mais où aussi ça donne au présent son relief.
On va écouter une voix qui a du relief, c'est Patti Smith et c'est votre choix musical.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets
a feeling he's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses.
Land Horses, c'est la voix, vous l'avez reconnue, de Patti Smith. Et c'est le choix de Chantal Thomas qui publie East Village Blues aux éditions du Seuil. J'ose à peine vous demander pour votre choix musical, Chantal Thomas.
Elle est au cœur du livre. Ouais. C'est le moment où elle habite Chelsea Hotel.
Voilà.
En plus, pour revenir au présent, elle s'est révélée un très grand écrivain. Et j'adore ses livres. Je viens de lire M. Twain. Je trouve que cette attaque frontale qu'elle défend, qui est l'attaque frontale du rock, elle l'a dans son écriture. Et je dirais que pour moi, la leçon, quand je suis venue à vivre là-bas, je ne pouvais pas me la formuler, mais après des années, je la formule. C'est la question d'attaque frontale.
Ah, j'adore cette expression. D'ailleurs, en vous lisant, dans le passage où vous parlez des lectures de Ginsberg avec Kerouac qui ponctue de Yeah, Go Man, est-ce que c'est pas l'époque finalement, parce que j'ai pensé au rap évidemment là pour le coup, qui scande, là on est dans le rock avec Patti Smith, est-ce que c'est pas les années 70 aussi l'époque où s'est opérée la fusion vraiment de la parole chantée et de la parole littéraire comme performée en fait, comme
c'est
jamais
sûr, c'est sûr, mais je pense aussi que c'est un moment où l'écriture s'ouvre à l'espace et s'ouvre au monde.
Alors, l'histoire de East Village Blues se passe aujourd'hui et dans le passé. Vous êtes à New York, hein, aujourd'hui en 2017, hein, exactement. Et puis, vous vous rappelez votre premier voyage en cette ville qui vous a subjugué. Alors, vous veniez de soutenir votre thèse sur Sade auprès de Roland Barthes, hein. Excusez du peu.
C'était très sérieux.
Oh, oui, Sade, Barthes, oui, mais c'est tellement sérieux que c'est électrisant, peut-être autant que New York. Et puis, vous remémorez dans ce livre, qui est un livre entrecoupé par des photos, hein, des photos de Allen Weiss, des photos de murs, des photos de graffiti, et vous remémorez, vous nous offrez d'ailleurs ces souvenirs de fête avec Andy Warhol, des soirées au Bonnie and Clyde ou Bonnie's and Clyde, bar lesbien, le Chelsea Hotel, toutes les fêtes et puis les lectures, hein, des écrivains, des auteurs de la Beat Generation, notamment des lectures de Ginsberg. Quelle chance vous avez eue, Chantal Thomas. Vous citez d'autres écrivains, beaucoup y sont présents dans le texte. Vous entremêlez vos mots avec les leurs, Burroughs, Herbert Hunkie comme Junkie, ouais, exactement. Icône de la sous-culture et aussi figure de la Beat Generation, pionnier des droits homosexuels aussi. C'est un livre oral, ce livre. C'est un livre sur l'écriture. C'est un livre aussi sur les grands discours qu'on peut faire et qu'on faisait sur l'écriture à l'époque. Je voudrais qu'on vous entende lire, Chantal Thomas.
Je cheminais, l'esprit tout allumé d'avoir passé une soirée au Chelsea Hotel. En plus, pour une divorce party. Nettement plus chic qu'une birthday party, une Christmas party ou même une Halloween party. I remember you well in the Chelsea Hotel. That was the winter of 67. La chanson de Leonard Cohen pour Janis Joplin me donnait des frissons d'amour. Je cheminais moyennement droit, même si je m'efforçais de garder le cap et croyais-je y réussissais. Fière conviction que des embardées soudaines mettaient à mal. Mais l'équilibre se rétablissait. Et, sous cette pluie torrentielle, qui pourrait noter que je progressais en zigzag? Certainement pas mes compagnons, eux non plus pas nets. Nous étions au niveau de Union Square, justement à deux pas du Strand. Les deux hommes étaient dans une conversation dont la gravité sur le moment m'échappait. J'écris sur les occurrences d'essuie-glaces dans la littérature. Ça vous interdit pas mal de siècles, autant des diligences, par exemple. Même à l'époque des automobilistes, croyez-moi, les notations sur les essuie-glaces sont restreintes. Sans les romans policiers, j'aurais un corpus inexistant. Mais bon, c'est mon choix. C'est aussi ce qui, selon mon directeur de thèse, fait l'originalité de ma recherche. Et vous ? Vous écrivez sur quoi ? Je n'écris pas sur, pas même sur moi. Je suis poète, une déclaration que j'entendais sans arrêt. Un aveu d'une sereine certitude, d'une gravité fatale, d'une portée diabolique, mais toujours proférée sur un ton d'évidence. Ils sont poètes, ça ne se discute pas.
Merci Chantal Thomas, extrait de East Village Blues. Alors cette réflexion sur la poésie est intéressante parce que vous notez une grande différence entre les deux rives de l'Atlantique, si je puis dire. Bah, dans l'une des rives aux États-Unis, on se dit d'ailleurs, Michael Ondaatje, vous êtes poète vous-même, donc on se dit « je suis poète », alors qu'en France, à cette époque-là, dire « je suis poète », ça serait le comble du ridicule ou de l'arrogance, d'ailleurs.
Même maintenant, hein, ouais. C'est pas très répandu.
Et je suis écrivain, pareil, parce que vous dites à l'époque, vous citez Blanchot, on doit pas dire. Oui. On peut dire « je suis écrivain ».
Exactement. Et puis dans l'espace barthésien, dans l'espace du séminaire de Barthes, on tendait vers l'écriture. L'écriture était un mot sacré. Et moi, j'étais émue par le seul mot d'écriture. Mais de là à franchir le pas, non.
Est-ce que vous dites, Michael Ondaatje, je suis poète? Voilà. Est-ce que vous osez dire je suis poète?
I dare say I am a poet. Yes.
Oui, j'ose le dire. J'ose dire que je suis poète.
My writing as a poet.
J'ai commencé à écrire comme poète. Les 10 premières années, j'ai écrit des poèmes.
I think it probably influenced me more.
Et je pense que ça m'a davantage influencé dans mon travail de romancier que tout le reste. J'approche le roman comme quelque chose qui est peut-être moins formel que dans la tradition classique du roman.
Czesław Miłosz says,
c'est Miłosz qui disait au sujet du roman. Qui disait je ne suis pas d'accord avec le roman. Et je pense que je ne suis pas complètement d'accord avec la forme non plus quand j'approche un livre. Je pense que la forme pourrait être plus minimaliste ou prendre une autre direction ou être décalée. Et la poésie est quelque chose d'extrêmement précis. C'est une langue extrêmement précise. Ça n'a pas l'exubérance d'autres types d'œuvres. Je pense que la langue d'un roman peut être aussi comme ça plus resserrée, plus épuré parce qu'on est poète.
Est-ce que Chantal Thomas, finalement, la mémoire ne se réactive pas d'autant mieux qu'on fait appel aux mots des autres? Parce que je le disais, ce texte, il est constellé de citations merveilleuses qui nous donnent envie de tout relire.
C'est ce qui m'est arrivé. Ouais, ouais. J'ai relu les choses en écrivant. Et je n'ai pas le sentiment d'une mémoire très substantielle. C'est vraiment fait au fur et à mesure de nos... Je dis non parce que je me suis beaucoup promenée avec Alan Weiss au cours de ces déambulations. Et c'était des déambulations au présent. Et l'éclat déchiré et déchirant de ce qui surgissait des murs me disait, nous disait aussi la voix de la rue.
C'est vous qui avez tenu justement à ce qu'il y ait ces photos de murs dans le livre?
C'est une idée qui nous est venue ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment né de marcher. Et c'est en marchant que les murs de East Village nous en dit quelque chose. Il nous en dit aussi le temps, justement pour revenir sur ce que vient de dire Michael, où la poésie surgissait de ces rues. Et je cite à un moment le pasteur qui était extraordinaire, Saint Mark Church, qui dit « Pour moi, les poètes sont dans la rue. Les poètes ne sont pas dans l'église, ils sont dans la rue. » Et Saint Mark Church est vraiment au cœur.
Rappeler quand même, parce que moi j'ai, c'est vrai que j'ai relu ça, c'était l'endroit où tout le monde voulait se produire dans une église quand on était poète.
Saint Mark Church, c'est la plus ancienne église de New York. Elle a été construite au tout début du East Village, qui à ce moment-là était le Lower East Side et était très pauvre. Et donc c'est un peu comme une petite église hollandaise au départ. Et elle a été, dans les années 60, envahie avec le soutien actif de son pasteur par les poètes. Et elle devient la scène, d'ailleurs Patti Smith se produit là, c'est même sa première lecture, elle devient la scène, une scène folle à la fois de lecture, de performance, et tout le monde y vient, Lou Reed, Gregory Corso. Et ce qui pour moi était extraordinaire, c'est que je venais d'un endroit, c'est le passage de deux tonalité. Je viens d'un lieu où j'adore la voix de Roland Barthes, mais c'est une voix extraordinairement, vous la connaissez, tout en nuances, tournée du côté de la diction et de la mélodie française. C'est-à-dire une voix pas monocorde, mais où la nuance est intériorisée, proustienne, disons. Et je débarque dans un monde où, au contraire, la voix se projette au dehors, comme ces images qui jaillissent des murs, et se jettent dans le vide. Il y a un vide, il y a un vide. Et ça, j'ai adoré ce vide.
C'est drôle parce que là, je vous entends parler de mots qui se jettent dans le vide. On a l'impression que c'est écrit par une femme de 20 ans que vous aviez à l'époque. On retrouve ça sur le ferry, les gratte-ciel de Manhattan dans les premières lueurs de l'aube m'ont semblé la chose la plus belle du monde. Mes sens aiguisés par le spasme de terreur de la nuit passée, j'éprouvais devant cet échelonnement de pics séparés les uns des autres par de larges pans de ciel, une sorte de foudroiement. Les tours du World Trade Center dominaient de très haut toutes les autres constructions, y compris l'Empire State Building et le Chrysler Building. Elles étaient seules alors avec leurs 110 étages. Putain de ville, s'était exclamé le chauffeur de taxi haïtien. Écrire, ça permet de rester jeune à jamais, vous pensez ça?
C'est-à-dire, moi je pense, j'adore cette phrase de Claudel où il dit « je suis le maître de ma chronologie ». Personnellement, je ne vis pas en accord avec la chronologie. Ça m'est totalement indifférent. Aussi longtemps que mon corps me permet ce que je veux, je ne me soucie pas de ça.
On va poser la question à Michael Ondaatje. Est-ce que vous pensez qu'écrire, finalement, permet de rester jeune à jamais, comme nous le montre East Village Blues, et aussi Ombre sur la Tamise?
Maybe the writer stays young as a result.
Peut-être qu'effectivement l'écrivain reste jeune aussi. C'est un résultat. En tout cas, il est peut-être en meilleure santé.
Voilà. Pour terminer, je voudrais vous poser une question à tous les deux, puisque vous avez eu l'expérience, chacun de vous, du cinéma. Comme non seulement auteur adapté au cinéma, mais scénariste pour vous, Chantal Thomas, puisque vous avez travaillé avec Marc Duguin pour L'échange des princesses. Et vous, Michael Ondaatje, vous avez été adopté, adopté d'ailleurs, c'est drôle, adopté par Anthony, mais on devrait dire ça, adopté en fait, plutôt qu'adapté. Et je trouve que ce qui vous unit aussi, et particulièrement ces deux livres, c'est la manière dont vous usez tous les deux d'une technique de collage. D'ailleurs, vous avez publié des conversations avec l'un des grands monteurs de Hollywood, Walter Murch, le monteur et ingénieur du son d'Apocalypse Now, notamment du Parrain et du Patient anglais. Et le collage chez vous, Chantal Thomas, aussi dans cette manière de mixer différentes voix ensemble. Est-ce que c'est dû au cinéma? Est-ce que...
Oui, aussi. Moi, je dois dire que les deux expériences, les deux livres, Les Adieux à la Reine, mis en scène par Benoît Jacquot, ou L'échange des princesses avec Marc Duguin, ou récemment d'avoir travaillé au scénario de Dernier Amour de Benoît Jacquot, moi, ça m'a...
Sur Casanova.
Voilà, ça m'a profondément excité. Ça me plaît vraiment au sens où je pense aussi que ce qui est bien, c'est d'expérimenter des formes et différentes et que le langage soit pris aussi dans des contextes autres.
Et vous pensez que votre écriture, du coup, est influencée par cette pratique, finalement, ce compagnonnage avec le cinéma
Je pense que ça... Mon écriture, elle est à la fois classique, mais ouverte au changement. On revient au banc de sable.
Voilà, ça sera
Et j'aime cette idée de laisser entrer le hasard, ce qui était le contraire même d'écrire des essais. Je pense que de ce point de vue, depuis mes premiers essais jusqu'à ce livre, j'ai de plus en plus, j'adorais l'autostop. Et je pense que c'est un peu, et je parle d'une métaphysique de l'autostop. Et avec le temps, c'est cette métaphysique à laquelle je crois le plus.
Ah, c'est beau. D'ailleurs, l'autostop, ça commence comme ça, East Village Blues, part de l'autostop. Et vous, Michael Ondaatje, ce compagnonnage avec le cinéma, compagnonnage assez poussé, est-ce que vous avez l'impression aussi que finalement, ça tend à influencer votre écriture?
Je sais que pour moi, ce qui m'intéressait le plus, au début en faisant ces deux documentaires, c'était cet acte justement de montage, cette idée d'être extrêmement précis dans ce travail. Le fait de prendre un certain nombre de plans et ensuite de diminuer le nombre de plans et de réduire le nombre de plans. Et donc, on a vraiment extrêmement conscience du passage du temps. Il y a quelque chose de très subliminal dans ce processus du montage. Et j'avais envie d'apprendre là-dessus et j'ai appris beaucoup là-dessus. Mais en fait, j'aime apprendre de toutes les formes d'art. J'aime apprendre des peintres, du cyclisme, de la musique, évidemment, qui est une grande influence pour moi. L'écriture, c'est quelque chose de très intime et donc j'ai envie qu'il y ait toutes ces autres choses qui viennent me nourrir, en fait, qui viennent vers moi.
Donc, éloge de l'autostop aussi, c'est ce que disait Chantal Thomas.
Ah, yes, it's shocking too.
Oui, l'autostop aussi.
Ce sera le mot de la fin. Voilà, métaphysique de l'autostop avec Michael Ondaatje et Chantal Thomas. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Ombre sur la Tamise, Michael Ondaatje, c'est aux éditions de l'Olivier. C'est traduit de l'anglais par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Et East Village Blues de Chantal Thomas, c'est aux éditions du Seuil. Merci à vous, Chantal Thomas.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Michael Ondaatje.
Merci beaucoup.
Et Et merci Marguerite Capel pour votre traduction.
Merci.
Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Cédric Châtelu à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Chantal Thomas et Michael Andadji.